9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé, pour parler de la maladie de Lyme ce matin avec le professeur Yvan Sman. Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales du CHRU de Strasbourg. Et vous êtes spécialiste des maladies transmises par les tiques dont nous sommes en train de parler ce matin. Vous publiez La maladie de Lyme au-delà de la polémique, mieux comprendre pour mieux soigner. Et c'est aux éditions Solar. Alors la maladie de Lyme vient d'une ville, d'un endroit qui s'appelait Lyme d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un endroit sur la côte est des États-Unis. Où a été, non pas décrit, mais compris la première fois, le mécanisme de la maladie de Lyme, en particulier sur des manifestations dites articulaires.
Et ça, c'était dans les années 70, mais il y avait d'autres... Donc, elle devait exister avant qu'elle ait son nom de Lyme, finalement.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Alors, historiquement, disons, la maladie de Lyme, on la connaît depuis le 19e siècle, et les premières descriptions datent donc de cette période-là, mais on ne savait pas encore que c'était une maladie qui était transmise par les tiques, qui joue donc un rôle important, et que c'était une maladie qui était due à une bactérie. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que il y avait un certain nombre de manifestations qui étaient reconnaissables, en particulier les érythèmes migrants, cette phase primaire.
Alors, si vous me dites un érythème migrant en phase primaire, là, franchement, je ne vais pas vous faire une conférence dessus. Hein.
Oui, alors cette rougeur qui est transmise, qui survient dans les suites d'une piqûre de tique, donc c'est les premiers symptômes de la maladie de Lyme, c'est ce qu'on appelle la phase primaire ou la phase précoce, c'est ce qui survient dans les suites d'une piqûre de tique.
Donc dans les combien de temps ça?
Dans les jours à semaines qui suivent une piqûre de tique. Hein. Et ces symptômes, disons, ils sont assez particuliers, donc on peut les reconnaître assez facilement. Et historiquement, c'est pour ça que ces signes-là étaient connus en premier et qu'on a, au fur et à mesure de l'évolution de nos connaissances, pu faire le rapport avec la piqûre de tique et, à partir des années 80, avec la bactérie qui en est la cause.
Bien. Donc là, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, on est tous d'accord que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est provoquée par une bactérie transmise par les tiques.
Tout à fait.
Donc là, jusque-là, on est tous d'accord. Combien de temps après, alors, parce qu'une fois qu'il y a eu la période d'incubation, est-ce qu'on développe forcément une maladie de Lyme ou pas?
Alors, quand on parle de période d'incubation, ça veut dire que c'est la période qui se passe entre le moment où on inocule un agent infectieux, un microbe, et le moment où il se manifeste. Mmh. Donc, pour la maladie de Lyme, une fois que la tique pique, elle peut transmettre la bactérie, mais ça se fait pas dans tous les cas, ça se fait même plutôt rarement, mais quand ça arrive, l'incubation, elle est de l'ordre de 2-3 jours jusqu'à 4 semaines.
D'accord.
Parfois, et c'est ça qui est un petit peu dangereux, on ne se rend pas compte tout de suite, c'est-à-dire que les premiers signes peuvent être très très discrets. Cette rougeur dont je parlais tout à l'heure, elle peut passer inaperçue. Et à ce moment-là, on ne se rend pas compte qu'il y a eu transmission d'une maladie. Et la bactérie elle-même va continuer à disséminer, comme on dit, dans l'organisme et peut se manifester plusieurs semaines, voire même plusieurs mois après, alors qu'on n'a pas vu de rougeur et qu'on ne sait pas qu'on a été
piqué
contaminé
par
la Borrelia.
Voilà. Vous dites que ce qui amène, et l'un des signes principaux qui amène les patients à s'inquiéter et à consulter, c'est une sensation de fatigue. C'est même le point de départ qui les amène à penser à la présence de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Alors la fatigue, c'est un symptôme qui est, on va dire, assez difficile à analyser en médecine, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui donnent la fatigue. Il y a même parfois des situations qui correspondent pas à des maladies. Hein. Je veux dire, en fin de journée, en fin de semaine, on a le droit d'être fatigué. Et c'est vrai que sur le seul symptôme de la fatigue, il est difficile d'établir un diagnostic de la maladie de Lyme. C'est-à-dire qu'on essaye, quand quelqu'un vient avec de la fatigue, on essaye d'identifier d'autres types de symptômes qui pourraient plus s'orienter vers la maladie de Lyme.
Donc, qu'est-ce qui permet d'établir précisément et de poser un diagnostic de maladie de Lyme?
Alors le diagnostic, comme pour toutes les maladies en médecine, ça repose sur des symptômes qui sont évocateurs d'une maladie. Donc en l'occurrence, en dehors de la phase initiale avec cette rougeur dont on a déjà parlé, quand il y a une dissémination, après la bactérie, elle va atteindre certains tissus comme le tissu articulaire ou le tissu neurologique, le système nerveux.
Donc c'est-à-dire que là, dans ces cas-là, ça se traduit comment?
Alors, quand c'est au niveau articulaire, ça se traduit par ce qu'on appelle une arthrite. Hein. Alors, c'est un terme pour dire qu'il y a des articulations qui sont enflammées, donc elles sont chaudes, douloureuses, surtout douloureuses. Hein. Et c'est ça qui doit faire évoquer la maladie de Lyme. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui donnent également des arthrites. Quelqu'un qui a un rhumatisme ou d'autres types d'infections ou de la goutte va avoir des signes assez analogues. Donc il est important pour nous, en tant que médecin, d'arriver à faire la part des choses entre ce qui revient à une maladie de Lyme ou à une autre maladie.
Bien. Qui passe le test? Alors, ben, qui est testé finalement?
Mais justement, c'est les gens chez qui on se pose la question, est-ce qu'il y a une maladie de Lyme? Parce que les signes cliniques sont évocateurs de cette maladie. Et on se dit, ben voilà, je suis pas en mesure d'être sûr de mon diagnostic, parce que quelqu'un, pour reprendre l'exemple des douleurs articulaires, ben, ça peut être plein de choses. Et ben, donc, on va confirmer le diagnostic en faisant un test. Donc, on propose aux gens de faire une prise de sang, une biologie, et pour faire un test, pour voir si c'est bel et bien la maladie de Lyme qui peut être à l'origine de ces symptômes-là.
Bon. Alors, un des aspects de cette maladie et qui pose problème, c'est les tests, justement, puisque les tests de la maladie de Lyme ne seraient pas fiables.
Oui, alors il y a une grosse polémique sur les tests. C'est même un point qui est, je pense, tout à fait fondamental parce que...
Vous expliquez ce que c'est qu'un test pas fiable. Alors, expliquez-moi ce que c'est qu'un test pas fiable.
Alors, c'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire que nous, on aime bien...
C'est là où vous m'avez perdu, en fait.
Ah, oui,
dans le livre, bon, pour moi, un test est fiable s'il donne de bons diagnostics et pas fiable s'il donne un mauvais diagnostic.
Alors, en fait, le terme de fiable, nous, on l'aime pas trop en médecine. On aime bien, on est un petit peu, on aime bien être rigoureux. Alors, sans rentrer dans des formules, mais tout ça, c'est basé sur des rapports, des formules un petit peu mathématiques, on essaye de comprendre pourquoi un test est bon ou pas bon. Alors, fiable, c'est quelque chose d'assez global. En gros, quand un test est évalué, on essaie de savoir s'il est capable, le test, d'identifier une maladie chez quelqu'un qui est vraiment malade, ce qu'on appelle la sensibilité. Enfin, là, je rentre peut-être un peu dans les détails. Et on essaye également de s'assurer que le test est bien négatif chez les gens qui n'ont pas la maladie. Et donc, tout ça, ça nous permet de savoir si un test est fiable ou pas.
Mmh. Donc, en quoi est-ce que les tests de la maladie de Lyme peuvent s'avèrent-ils comme non fiables?
Alors, en fait, nous ne sommes pas tous d'accord sur, ce principe-là.
Ça fait partie de la polémique. Il y en a qui sont clairement d'accord, qui disent de toute façon, il faut changer les tests parce qu'ils sont pas, ils fonctionnent pas, ils sont pas fiables. Mmh. Donc, ça peut pas être un élément à prendre en compte. Et vous faites partie de la catégorie des gens.
Ah, mais nous, on aime bien être plus précis et plus exact.
Donc, quand vous parlez de nous, quand vous parlez de nous, c'est...
l'ensemble des médecins, des sociétés savantes, françaises ou internationales, qui sont clairement positionnés sur la place et la façon d'utiliser les tests. Il y a des recommandations.
Ceux qu'on accuse de déni.
On est ceux qu'on accuse de déni.
Déni de la maladie.
Exactement, on nous accuse de ça, alors qu'en fait, on soigne des gens qui ont une maladie de Lyme depuis des années. Donc, on n'en fait pas un déni, on la connaît, mais simplement, on essaye de faire le bon diagnostic chez les patients. Et c'est ça qui est important. Je pense que c'est ça qui...
Vous voyez, mais dans votre livre, vous expliquez, les tests dont nous disposons à ce jour sont en difficulté pour assurer un diagnostic de la maladie de Lyme. Donc, vous admettez quand même que ces tests-là ne sont pas au point pour ce qui concerne la maladie, vous voyez.
Alors, c'est un petit raccourci. Je ne le dis pas tout à fait comme ça.
Bah voilà. Mais je
vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais très rapidement, parce que c'est vrai que c'est important. En fait, les tests, on parle de la sérologie, pour que ce soit clair pour tout le monde.
Donc, c'est soit on est positif, soit on n'est pas positif.
Voilà. Et la sérologie, c'est l'identification de ce qu'on appelle des anticorps. Donc, on ne détecte pas la maladie elle-même, mais ce que produit le système immunitaire. Voilà.
Pour s'en défendre.
Bien. Donc, il y a deux possibilités. Soit on est dans une phase très initiale de la maladie, la phase précoce. Et là, à ce stade-là, les anticorps n'ont pas encore eu le temps d'être produits. Donc, quand on est dans cette phase de la maladie, le test, il n'est pas très bon. Et on ne l'utilise pas. Et c'est consensuel. Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas la peine d'utiliser. Par contre, quand on est dans une phase tardive de la maladie, donc après plusieurs semaines d'évolution, là, le test est bien meilleur. Il est même tout à fait bon. Et même, on peut dire que si le test est négatif, ça permet, dans la grande majorité des cas, d'éliminer le diagnostic. Alors, évidemment,
donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait le passer combien de temps après, alors? C'est ça?
Disons, si on veut être sûr, il faut attendre plusieurs semaines, 6 semaines à 3 mois. Voilà.
Donc, ça veut dire que le test fonctionne.
Oui.
Donc, si on se fait dépister dans le temps que vous venez de...
Voilà.
Dans le délai que vous venez d'indiquer.
En pratique, les gens qui ont des symptômes qui sont anciens, qui évoluent depuis plusieurs semaines, eh ben, chez ces personnes-là, le test, il est vraiment valable. C'est-à-dire que s'il est positif, ça va être un argument pour le diagnostic. Je dis juste un argument, ça ne sera pas une preuve, parce que comme c'est des anticorps, on n'est pas sûr que la maladie, la bactérie est vraiment là. Mais c'est quand même un argument fort. Par contre, si le test est négatif, c'est un argument très fort pour dire qu'on n'a pas la maladie.
Donc, qu'est-ce qui permet de valider que la bactérie et la maladie sont vraiment là?
Alors, c'est le gros problème de la maladie de Lyme, c'est qu'on n'a pas de test qui permet de trouver la bactérie qui est l'agent de la maladie de Lyme. C'est-à-dire que la vraie cause, la bactérie...
On identifie les anticorps, mais pas la bactérie.
Mais pas la bactérie.
D'accord. De nouveaux tests diagnostiques concernant cette maladie seraient sur le point d'être validés, oui ou non?
Alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus.
Ce que j'ai vu là, que ce serait que une nouvelle génération de tests serait sur le point d'arriver.
Alors, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Et tous ces tests, pour l'instant, ceux qui ont été évalués sont moins bons que le test de la sérologie. Et puis, les autres n'ont pas encore été évalués. Donc, tant que c'est pas évalué, on ne peut pas se prononcer.
Bon. Donc, pour l'instant, on attend que ce soit évalué.
Voilà. Alors, il y a de la recherche qui est faite à ce sujet-là. Donc, il y a plusieurs équipes qui essayent de travailler pour pouvoir mettre en évidence la bactérie elle-même ou des éléments qui témoignent de la présence de la bactérie. Mais pour l'instant, disons, c'est la recherche. Donc, ça prend du temps. C'est long, toujours.
Alors, quels sont les traitements une fois qu'on est diagnostiqué et que c'est posé, c'est validé, la personne a la maladie de Lyme, comment est-ce qu'on la traite?
Alors, c'est une maladie qui est donc liée à une bactérie. Et donc le traitement repose sur les antibiotiques, donc ce sont les médicaments qui sont actifs sur les bactéries. Donc on prend des antibiotiques pendant une durée selon le stade de la maladie, quelques semaines on va dire, et ça permet donc de se débarrasser de la bactérie.
Bien.
Et donc de guérir.
D'accord, et quelles sont les recommandations donc de la Haute Autorité de Santé?
Oui.
L'AS.
L'HAS.
L'HAS.
Ben, les recommandations, c'est de prendre...
Sur le protocole officiel. Hein,
oui, oui. Ouais. Ben, c'est de traiter, donc quand on est... au début de la maladie, on peut prendre des antibiotiques pendant une durée de 2 semaines, par voie orale, en comprimé. À ce stade-là, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on arrive non seulement à faire disparaître les symptômes cliniques, mais on arrive à se débarrasser définitivement de la bactérie. Et quand on est dans une phase un peu plus tardive, on va faire des traitements un petit peu plus longs, qui peuvent aller jusqu'à 4 semaines. Et parfois, on est même amené à prescrire des antibiotiques par voie injectable, qui sont plus efficaces et qui diffusent mieux, en particulier dans le système nerveux.
D'accord, sur une durée de combien?
4 semaines.
D'accord. Là, vous nous parlez d'une durée de 4 semaines, alors qu'en termes de maladie de Lyme, on est en train on entend parler d'une maladie qui serait chronique.
Oui.
Donc, une maladie qui est chronique, c'est une maladie qu'on prend en charge tout le temps.
Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur le terme chronique.
D'accord. Dites-moi, vous, ce que vous entendez par maladie chronique et quelle est la définition que vous en acceptez?
Bah, disons, le terme chronique, ça veut dire quelque chose qui dure dans le temps. Donc, la maladie de Lyme, c'est vrai qu'on est d'accord pour dire qu'elle dure dans le temps. Tant qu'elle n'est pas traitée, on a évoqué les différentes phases, mais tant qu'elle n'est pas traitée, la bactérie va rester dans un organisme. Elle peut même rester plusieurs années. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, à partir du moment où on a un traitement, donc les antibiotiques, on sait que les antibiotiques arrivent à se débarrasser de la bactérie. Et donc, c'est plus vraiment une maladie chronique, puisque justement, elle est en mesure de guérir. Donc, on n'aime pas parler de chronique, parce que la chronicité est un petit peu, ça fait référence à des maladies dont on n'arrive pas à guérir, comme un diabète ou ce genre de maladie.
De l'asthme, enfin,
voilà.
Bon, cholestérol.
Exactement. Donc, du coup, on préfère parler de différentes phases, la phase précoce, la phase tardive. Mais le terme chronique est quelque chose qui a une connotation un petit peu de « je ne guéris pas » ou voire même « je vais en souffrir toute la vie ». Or, ce qu'on a comme expérience, c'est que quand on a des gens chez qui la maladie de Lyme a été diagnostiquée sans doute possible, le traitement va être efficace. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des manifestations qui persistent. C'est-à-dire quand on a, par exemple, une atteinte des nerfs, ce qui arrive de temps à autre, il peut y avoir ce qu'on appelle des séquelles, c'est-à-dire que les gens vont améliorer leurs symptômes, mais il peut y avoir des signes résiduels qui peuvent être assez gênants.
Donc vous êtes responsable d'un service de maladies infectieuses. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, un, on guérit d'une maladie de Lyme.
Oui.
C'est ça que vous dites, c'est qu'en fait, une fois qu'on a pris le traitement, on en est débarrassé, c'est terminé.
Voilà. Alors, il peut rester de temps à autre des symptômes. Les gens qui ont des douleurs pendant des années sur des atteintes des nerfs, les nerfs, ça régénère pas bien. Donc, c'est vrai que les symptômes peuvent rester. Mais la bactérie elle-même, elle disparaît. Donc, après, on est dans une forme de maladie chronique, si vous voulez, mais qui est de type séquelle. C'est une séquelle de la maladie de Lyme. Donc, avec une prise en charge qui repose pas sur les antibiotiques.
Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sous les mots, en fait, finalement?
C'est important parce que finalement, oui. C'est le mécanisme de la maladie qui détermine le traitement. C'est-à-dire que donner des antibiotiques plus longtemps alors qu'il n'y a plus de bactéries, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, une fois que la bactérie est partie, les antibiotiques n'ont pas la peine, c'est pas la peine de les continuer, de les poursuivre. Ça n'a plus d'intérêt parce que les antibiotiques vont justement avoir pour propriété de tuer la bactérie. Mais une fois qu'elle est morte, c'est fini. Après, s'il y a encore des symptômes, on va proposer une prise en charge différente. On peut proposer des médicaments contre la douleur ou une prise en charge un petit peu plus globale pour essayer d'aider les gens. Mais c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une prise en charge multiple. C'est ça que vous êtes en train de dire?
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il c'est pas forcément que des antibiotiques.
Tout à fait. Tout à fait. C'est une prise en charge un peu plus globale et c'est en particulier dans les recommandations de l'HAS un petit peu la réflexion qu'on a eue et puis qu'on va continuer. C'est qu'est-ce qu'on peut proposer à ces personnes qui sont en souffrance pendant parfois des années, quand les antibiotiques ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour au moins les soulager?
La maladie de Lyme, c'est notre sujet ce matin avec le professeur Yvan Sman qui est notre invité. Au-delà de la polémique, ça tombe bien parce que tout à l'heure, nous allons parler de cette polémique. Votre livre paraît aux éditions Solar.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé, pour parler de la maladie de Lyme ce matin avec le professeur Yvan Sman. Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales du CHRU de Strasbourg. Et vous êtes spécialiste des maladies transmises par les tiques dont nous sommes en train de parler ce matin. Vous publiez La maladie de Lyme au-delà de la polémique, mieux comprendre pour mieux soigner. Et c'est aux éditions Solar. Alors la maladie de Lyme vient d'une ville, d'un endroit qui s'appelait Lyme d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un endroit sur la côte est des États-Unis. Où a été, non pas décrit, mais compris la première fois, le mécanisme de la maladie de Lyme, en particulier sur des manifestations dites articulaires.
Et ça, c'était dans les années 70, mais il y avait d'autres... Donc, elle devait exister avant qu'elle ait son nom de Lyme, finalement.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Alors, historiquement, disons, la maladie de Lyme, on la connaît depuis le 19e siècle, et les premières descriptions datent donc de cette période-là, mais on ne savait pas encore que c'était une maladie qui était transmise par les tiques, qui joue donc un rôle important, et que c'était une maladie qui était due à une bactérie. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que il y avait un certain nombre de manifestations qui étaient reconnaissables, en particulier les érythèmes migrants, cette phase primaire.
Alors, mais si vous me dites un érythème migrant en phase primaire, là, franchement, je ne vais pas vous faire une conférence dessus. Hein.
Oui, alors cette rougeur qui est transmise, qui survient dans les suites d'une piqûre de tique, donc c'est les premiers symptômes de la maladie de Lyme, c'est ce qu'on appelle la phase primaire ou la phase précoce, c'est ce qui survient dans les suites d'une piqûre de tique.
Donc dans les combien de temps ça ?
Dans les jours à semaines qui suivent une piqûre de tique. Hein. Et ces symptômes, disons, ils sont assez particuliers, donc on peut les reconnaître assez facilement. Et historiquement, c'est pour ça que ces signes-là étaient connus en premier et qu'on a, au fur et à mesure de l'évolution de nos connaissances, pu faire le rapport avec la piqûre de tique et à partir des années 80, avec la bactérie qui en est la cause.
Bien. Donc là, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, on est tous d'accord que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est provoquée par une bactérie transmise par les tiques.
Tout à fait.
Donc là, jusque-là, on est tous d'accord. Combien de temps après, alors, parce qu'une fois qu'il y a eu la période d'incubation, est-ce qu'on développe forcément une maladie de Lyme ou pas ?
Alors, quand on parle de période d'incubation, ça veut dire que c'est la période qui se passe entre le moment où on inocule un agent infectieux, un microbe, et le moment où il se manifeste. Mmh. Donc, pour la maladie de Lyme, une fois que la tique pique, elle peut transmettre la bactérie, mais ça se fait pas dans tous les cas, ça se fait même plutôt rarement, mais quand ça arrive, l'incubation, elle est de l'ordre de 2-3 jours jusqu'à 4 semaines.
D'accord.
Parfois, et c'est ça qui est un petit peu dangereux, on ne se rend pas compte tout de suite, c'est-à-dire que les premiers signes peuvent être très très discrets. Cette rougeur dont je parlais tout à l'heure, elle peut passer inaperçue. Et à ce moment-là, on ne se rend pas compte qu'il y a eu transmission d'une maladie. Et la bactérie elle-même va continuer à disséminer, comme on dit, dans l'organisme et peut se manifester plusieurs semaines, voire même plusieurs mois après, alors qu'on n'a pas vu de rougeur et qu'on ne sait pas qu'on a été
piqué
contaminé
par
la Borrelia.
Ouais. Voilà. Vous dites que ce qui amène est l'un des signes principaux qui amène les patients à s'inquiéter et à consulter, c'est une sensation de fatigue. C'est même le point de départ qui les amène à penser à la présence de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Alors la fatigue, c'est un symptôme qui est, on va dire, assez difficile à analyser en médecine parce qu'il y a beaucoup de maladies qui donnent la fatigue. Il y a même parfois des situations qui correspondent pas à des maladies. Hein. Je veux dire, en fin de journée, en fin de semaine, on a le droit d'être fatigué. Et c'est vrai que sur le seul symptôme de la fatigue, il est difficile d'établir un diagnostic de la maladie de Lyme. C'est-à-dire qu'on essaye, quand quelqu'un vient avec de la fatigue, on essaye d'identifier d'autres types de symptômes qui pourraient plus s'orienter vers la maladie de Lyme.
Donc qu'est-ce qui permet d'établir précisément et de poser un diagnostic de maladie de Lyme ?
Alors le diagnostic, comme pour toutes les maladies en médecine, ça repose sur des symptômes qui sont évocateurs d'une maladie. Donc en l'occurrence, en dehors de la phase initiale avec cette rougeur dont on a déjà parlé, quand il y a une dissémination, après la bactérie, elle va atteindre certains tissus comme le tissu articulaire ou le tissu neurologique, le système nerveux.
Donc c'est-à-dire que là, dans ces cas-là, ça se traduit comment ?
Alors, quand c'est au niveau articulaire, ça se traduit par ce qu'on appelle une arthrite. Hein, c'est un terme pour dire qu'il y a des articulations qui sont enflammées, donc elles sont chaudes, douloureuses, surtout douloureuses. Hein, et c'est ça qui doit faire évoquer la maladie de Lyme. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui donnent également des arthrites. Quelqu'un qui a un rhumatisme ou d'autres types d'infections ou de la goutte va avoir des signes assez analogues. Donc il est important pour nous en tant que médecin d'arriver à faire la part des choses entre ce qui revient à une maladie de Lyme ou à une autre maladie.
Bien. Qui passe le test ?
Alors, ben,
qui est testé finalement ?
Mais justement, c'est les gens chez qui on se pose la question, est-ce qu'il y a une maladie de Lyme ? Parce que les signes cliniques sont évocateurs de cette maladie et on se dit, ben voilà, je suis pas en mesure d'être sûr de mon diagnostic, parce que quelqu'un, pour reprendre l'exemple des douleurs articulaires, ben ça peut être plein de choses, et ben donc on va confirmer le diagnostic en faisant un test. Donc on propose aux gens de faire une prise de sang, une biologie, et pour faire un test pour voir si c'est bel et bien la maladie de Lyme qui peut être à l'origine de ces symptômes-là.
Bon, alors un des aspects de cette maladie et qui pose problème, c'est les tests, justement, puisque les tests de la maladie de Lyme ne seraient pas fiables.
Oui, alors il y a une grosse polémique sur les tests. C'est même un point qui est, je pense, tout à fait fondamental parce que...
Vous expliquez ce que c'est qu'un test pas fiable. Alors, expliquez-moi ce que c'est qu'un test pas fiable.
Alors, c'est vrai que c'est pas évident. C'est-à-dire que nous, on aime bien...
C'est là où vous m'avez perdu, en fait. Dans le livre, pour moi, un test est fiable s'il donne de bons diagnostics et pas fiable s'il donne un mauvais diagnostic.
Alors, en fait, le terme de fiable, nous, on l'aime pas trop en médecine. On aime bien être rigoureux. Alors, sans rentrer dans des formules, mais tout ça, c'est basé sur des rapports, des formules un petit peu mathématiques, on essaye de comprendre pourquoi un test est bon ou pas bon. Alors, fiable, c'est quelque chose d'assez global. En gros, quand un test est évalué, on essaye de savoir s'il est capable, le test, d'identifier une maladie chez quelqu'un qui est vraiment malade, ce qu'on appelle la sensibilité. Enfin, là, je rentre peut-être un peu dans les détails. Et on essaye également de s'assurer que le test est bien négatif chez les gens qui n'ont pas la maladie. Et donc tout ça, ça nous permet de savoir si un test est fiable ou pas.
Donc en quoi est-ce que les tests de la maladie de Lyme peuvent s'avèrent-ils comme non fiables ?
Alors en fait, nous ne sommes pas tous d'accord sur ce principe-là.
Ça fait partie de la polémique. Il y en a qui sont clairement d'accord, qui disent de toute façon il faut changer les tests parce qu'ils sont pas, ils fonctionnent pas, ils sont pas fiables. Donc ça ne peut pas être un élément à prendre en compte. Et vous faites partie de la catégorie des gens.
Ah mais nous on aime bien être plus précis et plus exact.
Donc quand vous parlez de nous, quand vous parlez de nous, c'est
l'ensemble des médecins, des sociétés savantes françaises ou internationales qui sont clairement positionnés sur la place et la façon d'utiliser les tests. Il y a des recommandations.
Ceux qu'on accuse de déni.
On est ceux qu'on accuse de déni.
De déni de la maladie.
Exactement, on nous accuse de ça, alors qu'en fait on soigne des gens qui ont une maladie de Lyme depuis des années. Donc, on n'en fait pas un déni, on la connaît, mais simplement, on essaye de faire le bon diagnostic chez les patients, et c'est ça qui est important. Je pense que c'est ça qui...
Mais, oui, mais dans votre livre, vous expliquez, les tests dont nous disposons à ce jour sont en difficulté pour assurer un diagnostic de la maladie de Lyme. Donc, vous admettez quand même que ces tests-là ne sont pas au point... Pour ce qui concerne la maladie, voyez.
Alors, c'est un petit raccourci. Je le dis pas tout à fait comme ça.
Ah, voilà. Mais je
vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, mais très rapidement, parce que c'est vrai que c'est important. En fait, les tests, on parle de la sérologie, pour que ce soit clair pour tout le monde.
Donc, c'est soit on est positif, soit on n'est pas positif.
Voilà. Et bon. La sérologie, c'est l'identification de ce qu'on appelle des anticorps. Donc, on détecte pas la maladie elle-même, mais ce que produit le système immunitaire. Voilà.
Pour s'en défendre.
Bien. Donc, il y a deux possibilités. Soit on est dans une phase très initiale de la maladie, la phase précoce, et là, à ce stade-là, les anticorps n'ont pas encore eu le temps d'être produits. Donc, quand on est dans cette phase de la maladie, le test, il n'est pas très bon. Et on ne l'utilise pas. Et c'est consensuel. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas la peine d'utiliser. Par contre, quand on est dans une phase tardive de la maladie, donc après plusieurs semaines d'évolution, là, le test est bien meilleur. Il est même tout à fait bon. Et même, on peut dire que si le test est négatif, ça permet, dans la grande majorité des cas, d'éliminer le diagnostic. Alors, évidemment,
voudrait dire qu'il faudrait le passer combien de temps après, alors? C'est ça?
Disons, si on veut être sûr, il faut attendre plusieurs semaines, 6 semaines à 3 mois. Voilà.
Donc, ça veut dire que le test fonctionne. Oui. Donc, si on se fait dépister, dans le temps que vous venez de,
voilà,
dans le délai que vous venez d'indiquer.
En pratique, les gens qui ont des symptômes qui sont, anciens, qui évoluent depuis plusieurs semaines, eh ben, chez ces personnes-là, le test, il est vraiment valable. C'est-à-dire que s'il est positif, ça va être un argument pour le diagnostic. Je dis juste un argument, ça ne sera pas une preuve, parce que comme c'est des anticorps, on n'est pas sûr que la maladie, la bactérie est vraiment là, mais c'est quand même un argument fort. Par contre, si le test est négatif, c'est un argument très fort pour dire qu'on n'a pas la maladie.
Donc, qu'est-ce qui permet de valider que la bactérie et la maladie sont vraiment là ?
Alors, c'est le gros problème de la maladie de Lyme, c'est qu'on n'a pas de test qui permet de trouver la bactérie qui est l'agent de la maladie de Lyme, c'est-à-dire que la vraie cause, la bactérie.
On identifie les anticorps, mais pas la bactérie.
Mais pas la bactérie.
D'accord. De nouveaux tests diagnostiques concernant cette maladie seraient sur le point d'être validés, oui ou non?
Alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus.
Parce que j'ai vu là que ce serait que une nouvelle génération de tests serait sur le point d'arriver.
Alors, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Et tous ces tests, pour l'instant, ceux qui ont été évalués sont moins bons que le test de la sérologie. Et puis, les autres n'ont pas encore été évalués. Donc, tant que c'est pas évalué, on peut pas se prononcer.
Bon. Donc, pour l'instant, on attend que ce soit évalué.
Voilà. Alors, il y a de la recherche qui est faite à ce sujet-là. Hein. Donc, il y a plusieurs équipes qui essayent de travailler pour pouvoir mettre en évidence la bactérie elle-même ou des éléments qui témoignent de la présence de la bactérie. Mais pour l'instant, disons, c'est la recherche. Donc, ça prend du temps. C'est long, toujours.
Alors, quels sont les traitements une fois qu'on est diagnostiqué et que c'est posé, c'est validé, la personne a la maladie de Lyme, comment est-ce qu'on la traite?
Alors, c'est une maladie qui est donc liée à une bactérie. Et donc le traitement repose sur les antibiotiques, donc ce sont les médicaments qui sont actifs sur les bactéries. Donc on prend des antibiotiques pendant une durée selon le stade de la maladie, quelques semaines on va dire, et ça permet donc de se débarrasser de la bactérie.
Bien.
Et donc de guérir.
D'accord, et quelles sont les recommandations donc de la Haute Autorité de Santé?
Oui.
L'AS.
L'HAS.
L'HAS.
Ben, les recommandations c'est de prendre...
Sur le protocole officiel. Hein,
oui, oui. Ouais. Ben, c'est de traiter donc quand on est... Au début de la maladie, on peut prendre des antibiotiques pendant une durée de 2 semaines, par voie orale, en comprimé. À ce stade-là, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on arrive non seulement à faire disparaître les symptômes cliniques, mais on arrive à se débarrasser définitivement de la bactérie. Et quand on est dans une phase un peu plus tardive, on va faire des traitements un petit peu plus longs, qui peuvent aller jusqu'à 4 semaines. Et parfois, on est même amené à prescrire des antibiotiques par voie injectable, qui sont plus efficaces et qui diffusent mieux, en particulier dans le système nerveux.
D'accord, sur une durée de combien?
4 semaines.
D'accord. Là, vous nous parlez d'une durée de 4 semaines, alors qu'en termes de maladie de Lyme, on est en train on entend parler d'une maladie qui serait chronique.
Oui.
Donc, une maladie qui est chronique, c'est une maladie qu'on prend en charge tout le temps.
Alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur le terme chronique. Hein.
D'accord. Donc, dites-moi, ce que vous entendez par maladie chronique et quelle est la définition que vous en acceptez?
Bah, disons, le terme chronique, ça veut dire quelque chose qui dure dans le temps. Donc, la maladie de Lyme, c'est vrai qu'on est d'accord pour dire qu'elle dure dans le temps. Tant qu'elle n'est pas traitée, on a évoqué les différentes phases, mais tant qu'elle n'est pas traitée, la bactérie va rester dans un organisme. Elle peut même rester plusieurs années. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, à partir du moment où on a un traitement, donc les antibiotiques, on sait que les antibiotiques arrivent à se débarrasser de la bactérie. Et donc, c'est plus vraiment une maladie chronique, puisque justement, elle est en mesure de guérir. Donc, on n'aime pas parler de chronique, parce que la chronicité est un petit peu... ça fait référence à des maladies dont on n'arrive pas à guérir, comme un diabète ou ce genre de maladie.
De l'asthme, enfin...
Voilà.
Bon, cholestérol...
Exactement. Donc, du coup, on préfère parler de différentes phases, la phase précoce, la phase tardive. Mais le terme chronique est quelque chose qui a une connotation un petit peu de « je ne guéris pas » ou voire même « je vais en souffrir toute la vie ». Or, ce qu'on a comme expérience, c'est que quand on a des gens chez qui la maladie de Lyme a été diagnostiquée sans doute possible, le traitement va être efficace. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des manifestations qui persistent. C'est-à-dire quand on a, par exemple... une atteinte des nerfs, ce qui arrive de temps à autre, il peut y avoir ce qu'on appelle des séquelles, c'est-à-dire que les gens vont améliorer leurs symptômes, mais il peut y avoir des signes résiduels qui peuvent être assez gênants.
Donc vous êtes responsable d'un service de maladies infectieuses. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, un, on guérit d'une maladie de Lyme.
Oui.
C'est ça que vous dites, c'est qu'en fait, une fois qu'on a pris le traitement, on en est débarrassé, c'est terminé.
Voilà. Alors, il peut rester de temps en temps des symptômes. Les gens qui ont des douleurs pendant des années et des années sur des atteintes des nerfs, les nerfs, ça régénère pas bien. Donc, c'est vrai que les symptômes peuvent rester. Mais la bactérie elle-même, elle disparaît. Donc, après, on est dans une forme de maladie chronique, si vous voulez, mais qui est de type séquelle. C'est une séquelle de la maladie de Lyme. Donc, avec une prise en charge qui repose pas sur les antibiotiques.
Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sous les mots, en fait, finalement?
C'est important parce que finalement, oui. C'est le mécanisme de la maladie qui détermine le traitement. C'est-à-dire que donner des antibiotiques plus longtemps alors qu'il n'y a plus de bactéries, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, une fois que la bactérie est partie, les antibiotiques n'ont pas la peine, c'est pas la peine de les continuer, de les poursuivre. Ça n'a plus d'intérêt parce que les antibiotiques vont justement avoir pour propriété de tuer la bactérie. Mais une fois qu'elle est morte, c'est fini. Après, s'il y a encore des symptômes, on va proposer une prise en charge différente. On peut proposer des médicaments contre la douleur ou une prise en charge un petit peu plus globale pour essayer d'aider les gens. Mais c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une prise en charge multiple. C'est ça que vous êtes en train de dire?
Tout à fait.
C'est-à-dire que c'est pas forcément que des antibiotiques.
Tout à fait. Tout à fait. C'est une prise en charge un peu plus globale et c'est en particulier dans les recommandations de l'HAS, un petit peu la réflexion qu'on a eue et puis qu'on va continuer. C'est qu'est-ce qu'on peut proposer à ces personnes qui sont en souffrance pendant parfois des années, quand les antibiotiques ne fonctionnent plus, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour au moins les soulager?
La maladie de Lyme, c'est notre sujet ce matin avec le professeur Yves Hansmann qui est notre invité. Au-delà de la polémique, ça tombe bien parce que tout à l'heure, nous allons parler de cette polémique. Votre livre paraît aux éditions Solar.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Autour de la polémique de la maladie de Lyme, je reçois ce matin le professeur Yves Hansmann. Vous publiez un livre vraiment pédagogique qui s'appelle « La maladie de Lyme, au-delà de la polémique, mieux comprendre pour mieux soigner » aux éditions Solar. Donc vous vouliez rétablir certaines vérités qui vous semblent bonnes à dire en tant que quelqu'un qui suit et observe cette maladie depuis 30 ans.
Oui, tout à fait.
Bon, moi j'ai reçu aussi des personnes qui l'observaient depuis 30 ans aussi la maladie, mais vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Comment expliquer aux gens qui nous écoutent ce matin, qui n'avaient jamais entendu parler de la maladie de Lyme pour la plupart d'entre eux, qui subitement ont découvert qu'il y a une maladie de Lyme qui existait et qui n'ont pas compris la polémique autour de cette maladie? Pourquoi est-ce que c'est une maladie qui dérange déjà? Et qui intrigue?
C'est difficile de répondre à ça. Alors pourquoi elle intrigue? Je pense qu'elle intrigue parce qu'elle a une forme un peu particulière. C'est-à-dire que c'est une maladie qui va être assez sournoise, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte tout de suite et peut persister pendant un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, même quand on la traite pas. Et donc c'est vrai que c'est une maladie qui fait peur un petit peu, qui est très angoissante. Parce que justement, elle est pas évidente et on sait qu'elle peut évoluer comme ça, de façon prolongée, sans qu'on s'en rende compte.
Bon, vous... Ce que vous rapportez dans votre livre, c'est votre expérience de terrain, et vous voyez arriver donc au CHRU des personnes qui sont persuadées qu'elles ont la maladie. Donc finalement, vous expliquez que c'est une maladie qui est victime de son succès, et que certains patients vont essayer de faire valider qu'elles sont bien atteintes de la maladie.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on constate de plus en plus, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de personnes, en tout cas. Soit qu'ils sont angoissés parce que ils ont eu beaucoup d'informations, pas toujours très bien comprises ou pas toujours très exactes, et puis ils se posent des questions, ils s'angoissent, et puis quand on regarde un petit peu, quand on a des informations un petit peu contradictoires, on sait plus trop à qui on peut faire confiance. Et donc on voit ces patients-là avec beaucoup d'angoisse en se posant la question, est-ce que les symptômes que j'ai peuvent être en rapport ou non avec une maladie de Lyme? Et c'est une évolution qu'on constate beaucoup ces derniers temps. Et donc on essaye de aussi, par notre métier, c'est aussi parfois de rassurer les gens quand la maladie de Lyme n'est pas confirmée. Bien sûr, quand elle est confirmée, on va les soigner et les traiter. Et puis il y a certaines personnes qui effectivement ont développé une certaine conviction qu'ils ont une maladie de Lyme, alors qu'un certain nombre de tests biologiques qui ont été faits ne permettent pas de confirmer ce diagnostic. Et donc là, on est...
Comment le cerveau fonctionne dans ces cas-là, quand on est persuadé d'avoir une maladie et qu'on veut et qu'on va voir un praticien pour finalement faire valider qu'on l'a bien?
C'est ce que j'explique souvent aux gens, c'est qu'un diagnostic, en fait, on ne le choisit pas. C'est-à-dire qu'on ne décide pas si on est malade ou pas, et on ne décide pas de la maladie qu'on a. Et nous, en tant que médecin, non plus, on ne décide pas. En fait, je le dis souvent aux gens, c'est la maladie qui décide. Et soit elle est présente, et soit on est en mesure de l'identifier, soit quand on n'est pas en mesure de l'identifier, la plupart du temps, c'est qu'elle est absente. Et c'est, c'est pas un choix, c'est un fait.
Mmh. Donc, dans ces cas-là, comment on fait? Parce que vous avez des patients qui sont complètement en contradiction.
Alors quand ils sont en contradiction, c'est-à-dire qu'on essaie quand même d'avoir une démarche pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vrai que la médecine s'appuie beaucoup sur le diagnostic, donc essayer de comprendre ce qui se passe, et puis c'est comme ça qu'on arrive à choisir les bons traitements également.
Donc comment est-ce que vous faites comprendre à quelqu'un que finalement elle a été abusée?
Le terme abusé peut-être... Mais on essaie surtout de comprendre pourquoi les gens ont des symptômes, parce qu'on voit des gens qui sont en souffrance, qui vont pas bien, qui ont des symptômes, sinon ils viendraient pas nous voir. Donc la première des démarches, c'est de voir s'il n'y a pas une autre raison qui permet d'expliquer ces souffrances-là. Et quand on trouve une autre raison, on va s'occuper de cette cause-là, et souvent c'est ça qui permet aux gens de s'améliorer. Après, quand il y a une conviction, quand il y a une vraie croyance, parce qu'il y a parfois, ça va jusqu'à la croyance, c'est vrai que la médecine n'est pas toujours en mesure de répondre à ces patients-là. On a cette façon d'aborder les choses à travers ce qu'on appelle le diagnostic, Et quand on n'a pas de diagnostic, parfois la médecine est un petit peu en difficulté pour soigner les gens parce qu'on n'a pas forcément de remède à leur proposer.
Mmh. Et donc, ces gens-là, ils vont d'où en nous ?
Eh ben, ces gens-là, ils vont voir quelqu'un qui peut-être répond à leurs questions, mais le problème, c'est que si cette réponse n'est pas adaptée, c'est-à-dire que si la réponse passe par un diagnostic qui n'est pas le bon, ça va pas leur rendre service non plus.
Et c'est-à-dire que si on dit à des gens qu'ils sont atteints de maladie de Lyme et qui ne l'ont pas,
ça va rien changer. C'est-à-dire qu'ils auront beau prendre tous les traitements, toutes les prises en charge qu'ils veulent, ça ne va rien changer. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est que quand on a ce genre de symptômes, il faut pas non plus tomber dans.
C'est une psychose, c'est quoi ?
Non, c'est pas une psychose. Je crois que c'est relativement humain finalement de se dire. Je pense qu'on a été formé un petit peu comme ça. On a été formaté un petit peu comme ça notre société. C'est-à-dire que la médecine est une pratique qui permet de régler beaucoup beaucoup de choses. On a pris l'habitude d'avoir une solution quel que soit le problème qu'on a en médecine. Et puis là, on est confronté à un problème pour lequel on n'a pas de solution. Et donc, c'est un peu normal qu'on cherche à comprendre les patients comme les médecins. Mmh. Et quand on comprend pas, ça génère une petite révolte ou une incompréhension. Et c'est là qu'il faut arriver à garder une confiance aux médecins. C'est-à-dire qu'il faut accepter quelque part que dans certaines situations, il n'y a pas de remède miracle en tout cas. Il n'y a pas de gélule qui permet de faire disparaître tous les symptômes. Mais en même temps, on leur explique que c'est pas forcément non plus pour ça qu'on va les laisser tomber. C'est-à-dire qu'on leur explique qu'on peut peut-être continuer à vivre en essayant de les aider, de les soulager au maximum, et qu'il faut qu'ils apprennent aussi un petit peu à considérer un petit peu cette vie un petit peu difficile avec parfois des douleurs qui ne sont pas forcément évidentes.
Oui, on rencontre ça souvent avec des patients qui souffrent de fibromyalgie en fait aujourd'hui.
Oui, il y a effectivement un certain nombre de maladies ou de syndromes qui ont été décrits, on voit beaucoup d'allusions également avec des syndromes qu'on appelle les syndromes de fatigue chronique ou des stress post-traumatiques. Donc on sait très bien qu'il y a parfois des événements qui peuvent être des éléments aigus, ça peut être des maladies, ça peut être des stress qui vont générer après des symptômes qui vont persister. Et c'est parfois assez difficile à prendre en charge parce qu'il faut que les gens acceptent aussi eux-mêmes que ces symptômes sont pas le fait d'une maladie clairement identifiée, mais qui sont le fait d'une mémoire de ce qui s'est passé parfois quelques années auparavant.
Mais les patients profitent aussi du fait que la médecine n'a pas toujours des réponses claires concernant la maladie de Lyme.
Alors c'est vrai que
vous voyez, c'est ça. Oui. Il y a une brèche.
Alors disons, quand on est dans une maladie de Lyme, c'est là qu'on revient à un problème du diagnostic. Si le diagnostic de la maladie de Lyme est bien établi, c'est-à-dire si les tests sont positifs, et si on est sûr du diagnostic, à ce moment-là, on a très peu de difficultés pour guérir ou au moins améliorer la situation. Et c'est uniquement dans les situations où le diagnostic n'est pas bien établi, c'est-à-dire quand les tests, par exemple, sont négatifs, qu'on a beaucoup de mal à améliorer la situation en administrant des antibiotiques. Mais ça veut dire probablement que le diagnostic n'est peut-être pas celui d'une maladie de Lyme. Donc on a beau mettre en place toutes sortes de traitements, ils n'ont aucune chance d'être efficaces parce que le diagnostic est ailleurs, le problème est ailleurs.
Mais on a des témoignages de patients qui disent « mais finalement, on m'a abandonné avec ma douleur ». Et ces patients qui ont le sentiment de ne pas être pris en charge par la médecine. Et on en revient à cette idée qu'il y a un déni.
Oui, alors effectivement, il y a des témoignages, mais je pense qu'il y a des gens effectivement qui pose un vrai problème à la médecine, en particulier un problème diagnostique. Et c'est vrai que nous, en tant que médecins, on est formés pour faire du diagnostic. C'est un des points importants. Et quand on n'y arrive pas, la réponse qu'on apporte est peut-être pas toujours une réponse parfaite ou idéale. Et les gens, ils attendent un peu mieux de la médecine parfois. Et donc, ça les met en difficulté, ça nous met aussi en difficulté. Et parfois, le problème, c'est qu'ils vont aller vers d'autres croyances qui vont peut-être les égarer un petit peu par rapport à une prise en charge plus standard que la médecine.
Quoi. Avec du recul, la polémique vient d'où ?
Je ne sais pas, il faudrait demander aux gens qui lancent la polémique, c'est peut-être eux qui pourraient répondre à cette question, parce que finalement, la polémique, elle vient pas de nous. Elle vient des gens qui remettent en question ce que...
Mais qui sont aussi des médecins, vous voyez.
Qui sont des médecins. Alors, quand je dis nous, c'est-à-dire que nous, on se base surtout sur les données scientifiques. Alors, données scientifiques, c'est pas simplement les paroles dites par un médecin. Une parole dite par un médecin n'est pas forcément quelque chose de scientifique. Quand on parle de données scientifiques, c'est des données qui sont issues des études. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire quand on fait des études? On fait des analyses, par exemple, à des personnes et on essaye de voir, par exemple, pour la maladie de Lyme, si on arrive à identifier Borrelia, le microbe de la maladie Lyme ou non. Et puis si on arrive à identifier Borrelia, on essaye de voir quels sont les traitements qui fonctionnent. Donc on prend des patients avec la maladie Lyme, on leur administre un antibiotique et on regarde si cet antibiotique est efficace. Ce sont ces études-là qui permettent d'établir la prise en charge et le traitement. Donc nous, on se fie à ça. Après, certaines personnes ont des propos qui sont assez loin de ces données scientifiques.
Mmh.
Et donc ça, ça ne permet pas, disons, de déduire des choses qui permettent, disons, de faire avancer...
Mais là, elle sert à quoi la polémique sur la maladie de Lyme ?
Ah mais comme dit, il faudrait demander aux gens qui suscitent cette polémique-là, parce que finalement, nous, elle dessert, je pense, elle dessert la médecine en général, mais surtout les patients. Je pense que les patients sont les premières victimes de cette polémique, parce que cette polémique, elle est à l'origine, effectivement, d'une défiance des patients par rapport à la médecine, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de patients qui vont se retourner vers des pratiques peut-être un peu différentes, un peu alternatives, mais qui ne vont pas apporter de bénéfices réels.
Aujourd'hui, il y a une expression qui est à la mode, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte.
Oui.
Est-ce que ces gens qui, justement, nous alertent sur une possible épidémie de maladie de Lyme sont des lanceurs d'alerte ?
Alors, tout dépend ce qu'on entend par le terme de lanceur d'alerte. Je pense que c'est pas tout à fait ce terme-là. Je pense que c'est des gens qui ont des craintes, qui ont probablement des angoisses. Mais lanceur d'alerte, ça veut dire mettre à jour un événement qui n'était pas connu avant. Alors que la maladie Lyme, on la connaît depuis très longtemps et on la prend en charge depuis très longtemps. Quand on parle d'épidémie, par exemple, on sait très bien qu'il y a une surveillance en France qui permet de voir un petit peu l'évolution du nombre de cas de maladie Lyme.
Vous travaillez dans les infections, donc voilà.
Voilà, et puis on voit qu'il y a des années où il y en a un peu plus et il y a des années où il y en a un peu moins. Donc il y a des petites variations. Globalement, on manque peut-être encore un peu de recul pour savoir si le nombre de cas augmente vraiment, mais on n'a pas de données qui permettent de parler d'épidémie.
En quoi est-ce que la médiatisation autour de cette maladie de Lyme amène des comportements différents de la part des patients et des gens qui nous écoutent ?
Je pense que les patients, du fait de la médiatisation, vont avoir des informations extrêmement différentes, de tout point de vue, je veux dire... à travers Internet, les réseaux sociaux, les forums, etc. Il y a un échange d'idées, mais le problème, c'est que ces idées reposent pas toujours justement sur les données scientifiques.
Est-ce qu'il faut aussi parfois admettre que la médecine n'a pas réponse à tout ?
Ah, clairement, oui, clairement. Je veux dire, la médecine n'a pas toujours réponse à tout. On ne peut pas, dans certaines situations, faire du diagnostic, je l'ai dit, donc parce qu'on n'y arrive pas, et donc on est réellement en difficulté. Mais en même temps, je pense que la médecine doit s'efforcer pour trouver au moins, si c'est une solution, en tout cas une aide. Et ça, je pense que c'est un domaine dans lequel la médecine a peut-être encore des progrès à faire. Et je pense que ce genre d'histoire peut aussi nous amener à progresser dans ce sens-là.
Qu'est-ce que ça nous apprend de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, finalement, toute cette polémique, tout ce bruit autour de la maladie de Lyme ?
Ça apprend peut-être beaucoup de choses sur l'état, disons, de les craintes qu'il y a dans notre société par rapport... À des angoisses, à tout ce qui peut se passer. Je veux dire, c'est vrai que c'est une maladie qui, vous l'avez dit, qui peut être un petit peu considérée comme inquiétante. Et c'est vrai qu'actuellement, la société...
Écoutez, moi, ça me fait peur quand j'entends parler de la maladie de Lyme. Je dis, voilà, si je suis piqué, finalement, je vais me retrouver à grabataire dans un fauteuil à plus pouvoir bouger. Enfin, voilà.
Oui, mais en fait, ça, c'est des idées qui sont quand même un peu des idées fausses, parce que ces personnes qui ont une maladie Lyme se retrouvent vraiment très rarement dans cet état-là. Je veux dire, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont des douleurs, mais qui gardent une certaine ou une excellente autonomie. Et donc, en fait, cette histoire nous apprend beaucoup, effectivement, sur... moi, je pense que ça apprend beaucoup sur les croyances, sur les angoisses et les croyances autour, en particulier, des problèmes de santé. Mais c'est vrai que c'est assez humain, finalement. La santé, c'est quelque chose qu'on aime bien être... Enfin, on aime bien qu'elle soit bonne, qu'elle soit... Chacun a peur un petit peu d'être malade et ça fait partie des angoisses un petit peu normales.
Voilà, moi ce que je lis, c'est que finalement on dénie les maladies de Lyme parce que ça coûterait trop cher à la sécurité sociale si tout le monde, voilà, si on diagnostiquait tout le monde. Enfin, voyez.
Oui, alors après il y a quelque chose qui rejoint un petit peu des théories un petit peu du complot, voilà, où les autorités sanitaires soi-disant ne voudraient pas mettre l'argent ou parce que ça, je pense que sont vraiment des fausses informations. Je pense que ce sont vraiment des fausses informations, de même impliquer ou des laboratoires pharmaceutiques qui voudraient pas que certain nombre de recherches qui soient faites, ce sont vraiment des fausses informations qui reposent sur rien.
Bien, je rappelle Yves Hansmann que vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales du CHRU de Strasbourg. Donc vous savez de quoi vous parlez. Ça fait 30 ans que vous les observez, ces maladies.
Voilà.
On peut lire La maladie de Lyme au-delà de la polémique pour mieux comprendre, pour mieux soigner. C'est un livre pédagogique. Si vous voulez tout savoir sur les tics, vous pourrez faire des conférences là-dessus aux éditions Solar. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Retrouvez À votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.